Bonsoir à tous, Claire Morin-Gibourg avec vous. Bienvenue dans Le Monde Aujourd'hui. Au sommaire ce soir. Au Sénégal, Bassirou Diomaye Faye a prêté serment et devient le cinquième président.
Devant Dieu et devant la nation sénégalaise, je jure de remplir fidèlement la charge de président de la République du Sénégal.
Lancement du dialogue national inclusif au Gabon 7 mois après le coup d'état militaire. Nomination historique en République démocratique du Congo, Judith Suminoy devient la première femme Premier ministre. En Israël, le Premier ministre Benjamin Netanyahu admet que les 7 collaborateurs de l'ONG américaine World Central Kitchen ont été tués par une frappe israélienne non intentionnelle à Gaza. Également dans un peu plus de 10 minutes, l'économie et les sports. Mais d'abord, le journal. Bassirou Diomaye Faye a prêté serment ce mardi près de Dakar comme cinquième et plus jeune président du Sénégal. Il a promis un changement systémique et plus de souveraineté pour son pays, ainsi que plus de solidarité entre États africains face aux défis sécuritaires. Nanit Talani.
Devant Dieu et devant la nation sénégalaise, je jure de remplir fidèlement la charge de président de la République du Sénégal.
Déclaration du président Faye devant les centaines d'officiels sénégalais et des chefs d'État et dirigeants africains au centre des expositions de la ville nouvelle de Diamnadio, près de Dakar. Devant le Conseil constitutionnel, ce haut fonctionnaire des impôts a aussi promis d'être le garant d'une démocratie renforcée et d'une justice indépendante dans un pays apaisé et d'espérance, sans oublier ses priorités, baisse du coût de la vie, lutte contre la corruption et réconciliation nationale. Bassirou Diomaye Faye a par ailleurs juré de défendre l'intégrité du territoire et l'indépendance nationale et de ne ménager aucun effort pour l'unité africaine, préconisant plus de solidarité entre pays africains face aux défis sécuritaires. Il veut œuvrer au retour dans la CEDEAO du Burkina Faso, du Mali et du Niger. M. Faye, à 44 ans, succède pour 5 ans à Macky Sall, 62 ans, qui a dirigé le pays pendant 12 ans. Admirateur de l'ex-président américain Barack Obama et du héros sud-africain de la lutte anti-apartheid Nelson Mandela, M. Faye se dit panafricaniste de gauche et prône le rééquilibrage des partenariats internationaux. Surnommé Diomaye, l'honorable en Sérère, M. Faye est musulman pratiquant et a 4 enfants. Marié à 2 femmes, il est le premier président sénégalais polygame.
En Guinée, les principaux partis d'opposition et organisations de la société civile ont exigé ce mardi de la junte le rétablissement du calendrier visant un retour des civils au pouvoir avant le 31 décembre 2024. Les Forces vives de Guinée, un collectif regroupant les principaux partis d'opposition et des organisations de la société civile, accusent la junte de restreindre les libertés publiques et de harcèlement à l'encontre des leaders politiques. Pour la première fois de son histoire, une femme va diriger le gouvernement de la République démocratique du Congo. Judith Suminoy Touluka, ministre du Plan, a été nommée hier première ministre un peu plus de 3 mois après la réélection du président sortant Félix Tshisekedi. Rendez-vous en deuxième partie d'émission pour entendre la réaction de Tina Salama, la porte-parole de la présidence congolaise. Par ailleurs, dans l'est de la RDC, au moins 10 civils ont été tués lors d'une nouvelle attaque attribuée aux rebelles ADF affiliés au groupe État islamique. Ils ont incendié un pavillon du centre de santé, pillé des boutiques et brûlé des maisons, a témoigné le bourgmestre de Mangina. Le porte-parole de l'armée de la région n'a pas confirmé les 10 morts, mais a souligné que les FRDC avaient neutralisé 4 terroristes et libéré 4 jeunes filles qui avaient été kidnappées. Le Gabon lance ce mardi un dialogue national inclusif pour préparer des élections 7 mois après le coup d'état militaire. Davantage avec Alexandrine Holognon.
Les travaux des 580 participants nommés par le général Brice Oligui Nguema débuteront demain mercredi dans la capitale. Si le calendrier de 2 ans pour rendre le pouvoir aux civils est salué par la communauté internationale et la grande majorité de Gabonais, des voix s'élèvent pour fustiger un dialogue entre soi qui pavera la voie au général Nguema vers la présidentielle. Ces dernières semaines, plusieurs personnes, dont une partie de l'opposition, ont appelé à reporter le dialogue, critiquant une organisation unilatérale. Le dialogue national n'étant pas souverain, ces résolutions ne seront pas contraignantes, estiment aussi ses détracteurs, notamment pour la nouvelle constitution qui sera élaborée par les députés et sénateurs. Les modalités de consultation du peuple promis par le président au moyen d'un appel à contribution lancé en octobre jusqu'aux villages les plus reculés sont également critiquées. Selon le gouvernement, 38 000 doléances et suggestions ont été recueillies parmi les 2 millions d'habitants.
Le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi a prêté serment ce mardi devant le Parlement pour son troisième mandat à la tête du plus peuplé des pays arabes, dans un contexte de graves tensions régionales et d'importantes difficultés économiques. Jean-Roger Bion.
Ce nouveau mandat de l'ancien maréchal de 69 ans, censé être le dernier conformément à la Constitution, débute effectivement dès demain mercredi et pour une durée de 6 ans. Abdel Fattah al-Sissi a prononcé son serment devant les députés rassemblés au siège du Parlement dans la nouvelle capitale administrative qu'il a érigée dans le désert à l'est du Caire. Il a promis de poursuivre les réformes pour réaliser les aspirations de la nation égyptienne visant à construire un État moderne et démocratique. M. Sissi a remporté en décembre l'élection présidentielle avec 89,6% des voix face à 3 autres candidats peu connus du grand public, les adversaires de l'opposition ayant été, eux, écartés ou emprisonnés. Au pouvoir depuis une décennie déjà, M. Sissi devrait rester à son poste jusqu'en 2030. Si des milliards ont été investis pour une modernisation des infrastructures, des observateurs pointent du doigt des dépenses massives qui ont fait exploser la dette du pays. Au cours de la décennie écoulée, la dette étrangère a plus que triplé jusqu'à atteindre les 165 milliards de dollars selon des chiffres de la Banque mondiale.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Israël a admis une frappe non intentionnelle qui a tué dans la bande de Gaza 7 collaborateurs de l'ONG humanitaire World Central Kitchen. Ils livraient de la nourriture aux habitants du territoire palestinien assiégé. Yacouba Ouedraogo.
Malheureusement, hier lundi, s'est produit un incident tragique. Nos forces ayant frappé de façon non intentionnelle des innocents dans la bande de Gaza, c'est ce qu'a déclaré le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, ajoutant, je cite, « Cela arrive dans une guerre, nous allons vérifier jusqu'au bout, nous sommes en contact avec le gouvernement et ferons tout pour que cela ne se reproduise plus jamais. » Basé aux États-Unis, World Central Kitchen, l'une des rares ONG à opérer encore dans le territoire palestinien, a annoncé suspendre ses opérations dans la région. J'ai le cœur brisé et je suis consterné que nous ayons perdu de belles vies aujourd'hui à cause d'une frappe ciblée des forces israéliennes, a déclaré la présidente de World Central Kitchen, Erin Gori. Les victimes sont originaires d'Australie, de Pologne, du Royaume-Uni, un citoyen ayant la double nationalité américaine et canadienne et une personne palestinienne selon l'ONG. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken réclame une enquête rapide et impartiale des autorités israéliennes. Le Royaume-Uni dit attendre d'Israël des explications transparentes et complètes. L'Australie exige que tous les responsables rendent des comptes.
Et pour être tout à fait complet, la Maison-Blanche a indiqué que le président Joe Biden avait appelé le chef José Andrés du groupe World Central Kitchen pour lui présenter ses condoléances. Le président américain a souligné que les travailleurs humanitaires devaient être protégés. Le chef de l'ONU a condamné aujourd'hui la frappe imputée à Israël contre le consulat iranien à Damas en Syrie, appelant à respecter le droit international. Antonio Guterres a également appelé à éviter toute escalade, prévenant que toute erreur de calcul pourrait conduire à un conflit plus large dans une région déjà instable, avec des conséquences dévastatrices pour les civils. Les présidents chinois Xi Jinping et américain Joe Biden se sont parlé au téléphone aujourd'hui. Il s'agit de leur première conversation depuis un sommet en novembre dernier en Californie, avec pour objectif, selon la Maison-Blanche, de gérer les tensions entre les deux superpuissances. Joe Biden a ainsi fait part de sa préoccupation face à l'appui économique et industriel qu'offre Pékin à Moscou. En réponse à la demande de paix et de stabilité à Taïwan faite par le président américain, son homologue chinois Xi a répondu que le sujet Taïwan est une ligne rouge infranchissable. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. L'essentiel de l'actualité économique en Afrique, c'est la Minute Éco avec Alexandrine Colognon.
Hausse de 50% du prix d'achat du cacao aux producteurs de Côte d'Ivoire. Le prix du kilo a été fixé à 1500 francs CFA pour la récolte intermédiaire, selon une annonce du ministre de l'Agriculture. Cette hausse intervient au moment où les cours du cacao battent des records sur les marchés de matières premières. La mesure augmente ainsi légèrement la part des petits agriculteurs ivoiriens. Le cacao ivoirien représente 45% de la production mondiale et compte pour 14% du PIB du pays. Le prix de l'or a atteint un nouveau sommet historique ce mardi. Le métal précieux a progressé jusqu'à 2266,85 $ l'once dans la matinée à Londres. Le pétrole a prolongé ses gains de lundi. Les traders s'inquiétant également de l'approvisionnement et de la guerre d'Israël contre le Hamas à Gaza. Les recettes touristiques ont augmenté de 32% en 2023 au Kenya. Elles ont été établies à 352,5 milliards de shillings, environ 2,7 milliards de dollars, dépassant ainsi leur niveau pré-pandémique, selon des données publiées par l'Institut gouvernemental de recherche sur le tourisme, repris par l'agence Ecofin.
Maintenant, la page sport présentée ce soir par Yacouba Ouedraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir Claire, bonsoir à tous.
Semaine décisive pour 4 sélections africaines qui jouent leur qualification pour les JO de Paris, football féminin.
Oui, 2 oppositions, 2 places à prendre à l'issue de la double confrontation entre l'Afrique du Sud et le Nigeria d'une part, et d'autre part entre le Maroc et la Zambie. Les matchs aller auront lieu ce vendredi 5 avril et ce retour le 9. Amin Birouk nous en parle.
La force de frappe de l'équipe sud-africaine réside dans son collectif avec une ossature de main Mélodie Sandans du côté du Nigeria, Azetat Oshuala qui évolue au Barça. Quelques individualités en Europe pourraient faire la décision. Dans l'autre confrontation, il y a la Zambie de Barbaba Banda qui sera opposée à l'équipe du Maroc, encore des équipes qui étaient lors de la dernière Coupe du Monde présentes. Les Zambiens ont l'ascendant psychologique sur les Marocains, notamment lors des confrontations en amicales qui avaient eu lieu au mois de septembre dernier avec 2 victoires de la Zambie, et notamment la dernière en date sur le score de 6-2 qui avait coûté sa place à Reynald Pedros, remplacé par Jorge Vilda, l'ex-entraîneur de l'équipe d'Espagne champion du monde. Vilda qui compte sur l'expérience du bloc de l'AS FAR, plus quelques joueuses évoluent en Europe pour pouvoir, bien évidemment, permettre au Maroc d'être, pour la première fois de son histoire, qualifié lors des JO. Le match aller à Ndola risque d'être déterminant aux Marocaines de résister aux assauts adverses, de jouer bloc bas, de ne pas laisser d'espace dans le dos pour pouvoir, bien évidemment, réussir à amener un bon résultat, histoire, peut-être, de forcer la décision à Rabat 5 jours plus tard. En tout cas, les 2 équipes qui se qualifieront devront après faire honneur à l'Afrique, même si le tirage au sort les a mis dans des groupes très compliqués, avec très peu de chances de se qualifier pour la suite de la compétition.
Amin Birouk, notre consultant sportif à Casablanca, au Maroc.
Ici en NBA, les Suns font une bonne opération contre les Pelicans.
Phoenix s'est bien lancé dans la course au play-off avec un succès sur le parquet de la Nouvelle-Orléans, 124-111, Devin Booker a flambé avec 52 points. Grâce à cette victoire, les Suns grimpent d'une place en 7e position de la conférence Ouest. Les Pelicans occupent l'enviable 6e place, première directement qualificative pour les playoffs. Tranquille leader à l'Est à 2 semaines de la fin de la saison régulière, Boston, lui, a connu une victoire facile contre Charlotte, 118-104. De son côté, le Magic d'Orlando a tremblé mais terminé soulagé en voyant DeAndre Ayton manquer le tir de la victoire à la sirène, laissant Portland à 1 point des Floridiens, 104-103. Ce succès permet au Magic de conserver la 5e place de la conférence Est devant les Indiana Pacers qui ont battu les Brooklyn Nets, 133-111.
Merci Yacouba.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Claire Morin-Gibourg, toujours avec vous. Place au dossier du jour. Bassirou Diomaye Faye a été officiellement installé dans ses fonctions de chef de l'État du Sénégal. La cérémonie d'investiture s'est tenue aujourd'hui devant un parterre de chefs d'État et de centaines de partisans. La correspondance de Dakar de Wahani Johnson Sambou.
C'est dans une salle pleine comme un œuf que Bassirou Diomaye Faye a été intronisé. Des centaines de ses partisans ont rallié dès les premières heures de la matinée le centre international de conférence Abdou Diouf de Diamniadio dans la périphérie de Dakar. Aucun ne voulait manquer ce moment spécial.
Une journée exceptionnelle, on l'avait rêvé, c'est réalisé. Je pense que ça a été un long combat. Et aujourd'hui, je pense que tous ceux qui sont de PASTEF, mais au-delà, tout le peuple sénégalais est content. Parce qu'il fallait faire ce changement. Et je pense qu'aujourd'hui, nous avons eu ce changement.
Aujourd'hui, c'est le jour de délivrance, franchement. Parce que le combat était difficile, comme vous l'avez dit. Le combat était également long, mais aujourd'hui, par la grâce de Dieu, on a vécu un moment inoubliable, un moment dont, dans l'avenir, on va expliquer ça à nos enfants, à nos petits-enfants également, avec fierté.
Et c'est dans une ambiance festive et face à des supporters surexcités que le tout nouveau président du Sénégal a prêté serment. Bassirou Diomaye Faye dit être conscient que les résultats sortis des urnes expriment un désir profond de changement systémique. Le président sénégalais promet de fait une autre manière de gouverner.
Je mobiliserai les Sénégalais discours et de la diaspora autour d'un projet de fédération et orienté vers le futur seul. Je m'engage par la promotion du culte du travail.
Bassirou Diomaye Faye a également réitéré son assurance aux partenaires du Sénégal et sa demande à un partenariat plus équitable. Plusieurs chefs d'État de la sous-région, dont ceux de la Guinée-Bissau, du Ghana ou encore de la Mauritanie, ont assisté à cette cérémonie. Bassirou Diomaye Faye s'est ensuite rendu au palais présidentiel pour la passation de service avec Macky Sall. Wahani Johnson Sambou, Dakar, pour VOA Afrique.
FM 102, c'est VOA Afrique à Dakar, au Sénégal, 24 heures sur 24. Femmes leaders africaines ont réagi suite à la nomination de l'économiste Judith Suminwa-Tuluka à la tête du gouvernement de la RDC qui aura pour la première fois de son histoire une femme première ministre. Madame Suminwa, qui a été ministre du plan, a été nommée hier, 3 mois après la réélection de Félix Tshisekedi. Nathalie Barge a joint la porte-parole du président congolais, Tina Salama.
Comme nous le disons très souvent, en tout cas nous avons la chance dans la République démocratique du Congo d'avoir le président le plus genré. On a un président très féministe, il avait commencé déjà dès son accession au pouvoir par donner des postes à responsabilité aux femmes.
Les défis sont immenses, mais ensemble on y arrivera, a déclaré la nouvelle première ministre Judith Suminwa-Tuluka à la télévision nationale après l'annonce de sa nomination. Ancienne onusienne, réputée pour sa rigueur professionnelle, elle succède à Jean-Michel Sama Lukonde qui a présenté sa démission le 21 février. Tina Salama revient sur la politique d'égalité des genres du président Tshisekedi au sein même de l'appareil de l'État.
On a eu des femmes directrices de cabinet adjointes, on a eu des femmes conseillères spéciales, ce qui n'avait jamais existé auparavant, une femme porte-parole et tout le reste, nous avons vraiment des postes à responsabilité. Et au gouvernement aussi, donc à chaque fois qu'il y avait des listes que les partis politiques envoyaient pour les ministères, il les renvoyait, il insistait à ce qu'il y ait plus de femmes.
La nouvelle première ministre congolaise va devoir mettre en œuvre les engagements du second mandat de Félix Tshisekedi dans un contexte sécuritaire difficile, particulièrement dans l'est du pays, où de nombreux groupes armés n'ont toujours pas été éradiqués. Consciente de la mission complexe qui l'attend, Madame Sumimwa a déclaré vouloir œuvrer pour la paix et le développement en République démocratique du Congo afin que le peuple congolais puisse bénéficier des ressources du pays. Madame Salama confirme un choix bien ciblé du président sur cette question et les autres nombreux défis à relever.
Voilà aujourd'hui, mais vraiment la preuve par excellence qui soutient les femmes dans un contexte très compliqué dans notre pays. Aujourd'hui, un contexte de guerre, on a beaucoup de défis, hein, à développement économique et tout ça. Donc ça veut dire qu'il sait que les femmes ont des capacités, des compétences et qu'elles vont apporter un plus dans ce pays.
En République démocratique du Congo, les deux tiers des quelques 100 millions d'habitants vivent sous le seuil de pauvreté. Selon l'ONU, 7 millions de personnes sont déplacées internes à cause des conflits. Lorsqu'elle dirigeait le ministère du Plan, Judith Sumimwa Tuluka a supervisé l'élaboration des orientations stratégiques en matière de développement et du budget alloué aux investissements publics. Ayant auparavant exercé au ministère du budget, Madame Sumimwa a aussi été experte au programme des Nations Unies pour le développement pour la République démocratique du Congo, où elle a géré des projets de développement socio-économique dans l'est du pays. Tina Salama se dit très confiante en cette nomination.
Je me réjouis vraiment de ce choix-là. Et Madame Sumimwa, qui est une femme que je connais bien, c'est une femme qui a travaillé aux Nations Unies hein, à l'époque, et elle est très bien. Elle est compétente, professionnelle, et on sait qu'elle va vraiment relever les défis immenses qui l'attendent, et on va la soutenir, on est avec elle.
C'était Tina Salama, porte-parole du président congolais.
Retrouvez-nous sur VOA Afrique en RDC sur 97.7 à Kisangani.
Alors que l'OTAN célèbre son 75e anniversaire cette semaine, l'Alliance et le rôle de l'Amérique dans la sécurité européenne sont des questions qui divisent les candidats à la présidence des États-Unis, Joe Biden et Donald Trump. Scott Stern, correspondant de la VOA, nous en dit plus. Le récit est de Jean-Roger Bian.
75 ans après sa création, l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord reste l'engagement le plus direct des États-Unis en matière de sécurité européenne, mis en place après la Seconde Guerre mondiale. À l'origine, l'OTAN réunissait les États-Unis et 11 pays européens qui s'engageaient à se porter mutuellement secours en cas d'agression de l'un d'entre eux. Harry Truman, alors président des États-Unis.
S'il y a quelque chose de certain aujourd'hui, s'il y a quelque chose d'inévitable dans l'avenir, c'est la volonté des peuples du monde pour la liberté et la paix.
L'invasion de l'Ukraine par la Russie, la réponse de l'OTAN et la lumière que cela jette sur le rôle de l'Amérique dans la sécurité européenne séparent les candidats à la présidence des États-Unis, Joe Biden et Donald Trump. Lorsqu'il était président, M. Trump a déclaré aux dirigeants de l'OTAN qu'il ne payait pas assez pour leur propre protection.
Ceux qui en profitent le moins sont les États-Unis. C'est nous qui en profitons le moins. Nous aidons l'Europe. L'Europe s'unit et s'oppose à un ennemi commun qui peut être ou non un ennemi. Je ne peux pas vous le dire. Il y a aussi d'autres ennemis.
5 ans plus tard, M. Trump a suggéré lors d'un meeting de campagne en Caroline du Sud que la fermeté à l'égard des membres de l'OTAN avait porté fruit.
L'OTAN était en panne jusqu'à ce que j'arrive. J'ai dit, tout le monde va payer. Ils m'ont répondu, si nous ne payons pas, allez-vous quand même nous protéger? J'ai répondu, absolument pas. Ils n'en croyaient pas leur yeux. Et tout le monde n'a jamais vu autant d'argent affluer.
L'OTAN s'est agrandie après le départ de l'administration Trump. La Suède et la Finlande ont rejoint l'Alliance au cours de l'année écoulée, ce qui constitue sa plus grande expansion depuis que la chute de l'Union soviétique a permis aux pays d'Europe de l'Est d'adhérer à l'OTAN. Le président Joe Biden estime pour sa part que le fait de s'opposer ensemble à l'agression russe montre que l'OTAN fonctionne.
Avant le début de la guerre, j'ai dit à Poutine que si l'on envahissait l'Ukraine, l'OTAN deviendrait non seulement plus forte, mais aussi plus unie. Et nous verrions les démocraties du monde se lever pour s'opposer à son agression et défendre l'ordre fondé sur des règles. C'est exactement ce que nous voyons aujourd'hui.
En tant que président, Donald Trump a donné la priorité aux relations avec la Russie et Vladimir Poutine lors de sa campagne pour un second mandat. Il s'est souvenu d'un dirigeant de l'OTAN qui l'interrogeait sur les menaces russes.
L'un des présidents d'un grand pays s'est levé et a dit, « Eh bien, monsieur, si nous ne payons pas et que nous sommes attaqués par la Russie, nous protégerez-vous ? » J'ai répondu, « Vous n'avez pas payé ? Vous n'avez pas payé ?» Il m'a répondu, « Oui, admettons que cela se produise. Non, je ne vous protégerai pas. En fait, je les encouragerai à faire ce qu'ils veulent. »
M. Biden estime que cette approche de la sécurité européenne est dangereuse pour l'Amérique.
Un ancien président républicain dit à Poutine, « Faites ce que vous voulez, c'est une citation. » Un ancien président a vraiment dit cela en s'inclinant devant un dirigeant russe. Je pense que c'est scandaleux, c'est dangereux et c'est inacceptable.
Donald Trump a déclaré à la chaîne de télévision conservatrice britannique GB News qu'il soutiendrait l'OTAN si chacun payait sa juste part.
S'ils jouent franc jeu, s'ils commencent à jouer franc jeu, l'Amérique est là.
Oui, à 100%, 100%.
Merci.
Joe Biden affirme que l'OTAN est plus forte et plus unie que jamais et qu'elle est au cœur des objectifs de politique étrangère de sa campagne de réélection.
Une créatrice de mode camerounaise vivant et travaillant au Liban cherche à aider les migrants à trouver les moyens d'agir et de se prendre en main. Pour ce faire, elle a recours à sa ligne de vêtements intitulée Vianney de Marceau. Plus de détails avec Ginny Niwa.
Véronica Wanijkoumage n'avait jamais imaginé qu'un jour elle porterait des tissus africains et serait mannequin pour une marque de mode à Beyrouth. Vianney de Marceau a été fondée il y a plus de 2 ans à Beyrouth par Ngemakwe Djoufa Vianney, une créatrice de mode camerounaise. Cette jeune femme de 31 ans s'est retrouvée au Liban, où elle travaillait comme employée de maison dans le cadre d'un système de parrainage connu en arabe sous le nom de kafala. Les tissus vibrants qu'elle incorpore dans ses créations sont devenus le symbole de la reconquête de son identité, dit-elle.
Mon rêve pour ma marque est de pouvoir partager mon histoire, de faire connaître l'histoire de Vianney de Marceau, le début et la suite de Vianney de Marceau dans le monde entier, pour que les gens sachent que j'ai commencé à travers un système qui m'a réduite à quelqu'un de moins qu'humain et qu'à travers cela, je suis devenue qui je suis et que je suis fière de qui je suis.
Selon le mouvement antiraciste libanais, le système de contrôle absolu, kafala, lie les travailleurs migrants aux caprices de leurs employeurs, de même qu'il les soumet à de longues heures de travail et les prive de liberté.
Essentiellement, les travailleurs domestiques migrants ou les personnes qui vivent ici comme travailleurs domestiques migrants sont ceux qui ont le moins de droits. Tout d'abord, parce qu'ils ne sont pas inclus dans le droit du travail. Ensuite, parce que leur employeur a un pouvoir illimité sur eux, ce qui les dissuade de s'intégrer dans la société ou d'avoir une vie normale.
Maj, une Kenyane de 31 ans, est arrivée au Liban en tant qu'employée de maison. Elle a souffert pendant des années, isolée, sans communication avec l'extérieur, jusqu'à la fin de son contrat. Aujourd'hui, travaillant en freelance, elle est fière de pouvoir exprimer son identité africaine.
C'est vraiment incroyable de rencontrer des femmes qui ont surmonté tant de souffrances et d'oppression et qui arrivent à faire quelque chose de grand, comme une marque qui leur est propre. Elles sont capables de s'exprimer non seulement par les mots, mais aussi par l'art.
Selon l'Organisation internationale pour les migrations, plus de 160 000 travailleurs migrants vivent au Liban. Sous le système de la kafala, leurs passeports sont souvent confisqués à l'arrivée et peuvent ne pas être restitués avant le départ du travailleur.
Fin de cette édition. Merci de votre fidélité à VOA Afrique. Un grand merci à la rédaction et à toute l'équipe de production qui a permis la réalisation de ce journal. Au micro, Claire Morin-Dubourg. Ainsi va le monde aujourd'hui. Pour plus d'informations, retrouvez-nous sur notre site internet voaafrique.com, sans oublier nos pages Facebook, YouTube, la plateforme X et Instagram bien sûr. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de nos programmes.